Bonjour Diarra.
Bonjour Marianne.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Évidemment, on est là pour trouver des pistes de solutions, hein, pas seulement pour surligner ce qui ne va pas, mais d'entrée de jeu, je peux pas m'empêcher, même si c'est pas toujours souhaitable, de faire la comparaison entre les garçons et les filles, parce que seulement 4% des filles atteignent la durée quotidienne recommandée d'exercice physique. Si on compare aux garçons, c'est 9%. Donc déjà, d'entrée de jeu, les filles bougent moins. Est-ce qu'on a une explication pour ça?
Bien, il faut dire que les filles font face à énormément d'obstacles, hein, au niveau de l'accès à l'activité physique et au sport. Notamment, très, très vite, les jeunes filles se sentent incompétentes dans le sport, à cause de la construction sociale du sport aussi, qui va être déjà réservée dans des espaces où il y a une forte présence masculine. Donc, c'est intimidant. Je vous donne un exemple. Une jeune fille qui arrive sur un terrain de basket avec son ballon, puis qui veut se pratiquer, qui se rend compte que le terrain est rempli de jeunes garçons qui sont en train de jouer. C'est un peu intimidant pour elles, déjà, d'entrée de jeu. Il y a aussi l'image corporelle négative pour beaucoup de filles qui vont créer un frein à la pratique d'exercice physique et puis de sport, notamment de se dire « il faut que je me mette en short » ou « que je me mette en maillot de bain ». Ça peut poser problème. Il y a aussi très souvent moins de support des parents, hein, pour la pratique sportive des filles comparée aux garçons dans plusieurs communautés. Vous savez, à FIDAction, on travaille beaucoup avec des communautés marginalisées, hein, donc on va parler de milieux sociaux économiquement moins privilégiés, puis aussi de communautés culturellement diversifiées aussi. Donc déjà, d'entrée de jeu, il peut y avoir un rapport à l'activité sportive aussi différent.
Et un rapport homme-femme différent également.
Oui et non, parce que je dirais que la question de l'inégalité entre hommes et femmes est présente dans toutes les cultures. Hein.
Ouais.
C'est vrai. Que, oui, malheureusement, beaucoup de filles, des fois, se retrouvent un peu, je dirais pas stigmatisées, mais on a une certaine construction aussi dans notre conception des personnes d'autres cultures, où on se dit d'entrée de jeu que les rapports sont moins égalitaires, alors qu'en réalité, on retrouve les mêmes constructions sociales.
Mais Diarra, lorsqu'une jeune fille de 7-8 ans a mal à se mettre en short pour aller à ses cours d'éducation physique, ça part d'où, ça?
Bien, ça peut partir au niveau de la construction de l'image corporelle. De plus en plus jeunes, les filles se remettent en question en termes de « est-ce que mes cuisses sont trop grosses? Est-ce que mes bras, etc. ?» Et ça, je pense qu'il faut se poser la question en tant que société comment est-ce qu'on, en tant que société, on en est venu là à ce que, à l'époque, c'était... Et d'ailleurs, c'est un peu ça qu'on retrouve, nous, dans notre recherche. C'est qu'à partir de la puberté, les filles sont plus conscientes de leur corps.
Ouais.
Mais là, si ça commence encore plus tôt, je pense qu'il y a des questionnements qu'il faut se poser en tant que société.
Oui. Et la santé est souvent associée à la minceur.
Malheureusement, la construction sociale, aujourd'hui très commercialisée aussi, à cause des produits qu'on veut vendre, etc., est malheureusement associée à la minceur. C'est une approche que vraiment la Fondation FIDAction, on se distancie de cette approche pour une approche où on comprend qu'on peut être en santé à tous les poids.
Oui. Mm-hmm. Qu'est-ce qui préoccupe les filles en matière de santé, excepté, mis à part le poids, là?
Je dirais que le stress, de plus en plus, les filles nomment beaucoup l'anxiété, le stress.
Ah ouais.
Et ça, c'est un peu, c'est préoccupant de se dire que de plus en plus jeunes, les filles nomment le stress comme un facteur important dans leur état de santé. Donc, la question de la santé mentale devient un problème de plus en plus courant auprès des jeunes. Ils nomment avoir des journées très chargées, avec beaucoup de livrables, soit à l'école ou dans d'autres activités qu'ils ont. Donc, je pense qu'il y a un questionnement qui doit se faire à ce niveau-là. L'image corporelle continue d'être clé en termes de facteurs et d'éléments importants que les filles nomment comme étant une préoccupation.
Mm-hmm. Bon, maintenant, on fait comment pour les inciter à faire davantage d'activités physiques si, lorsqu'elles arrivent dans le gym, c'est des garçons qui sont là, elles sont déjà d'entrée de jeu intimidées, comment on peut renverser la roue?
Voilà. Ben, renverser la roue, c'est justement ce que, à la Fondation FIDAction, on s'est évertué à faire depuis maintenant proche d'une vingtaine d'années. C'est vraiment de créer des espaces pour filles. On s'est rendu compte que quand les filles se retrouvent entre elles, on a plus accès à des discussions, donc on favorise la discussion sur des sujets problématiques, des sujets tabous. On peut parler de sexualité, on peut parler de problématiques de poids, on peut parler de dépression, on peut parler de consommation de substances et d'alcool dans un espace où elles se sentent moins jugées. Bien sûr, on a des pratiques hein, pour favoriser un espace qu'on appelle sécurisant pour ouais. les filles, un espace de confiance, mais déjà d'entrée de jeu, privilégier une approche où l'espace est non mixte, donc réservé aux filles, va permettre aux filles de s'épanouir. Et contrairement à ce qu'on pense, la compétition n'est pas quelque chose que les filles n'aiment pas. Les filles aiment la confidentialité.
Ah, oui. Ben là, vous m'apprenez quelque chose.
Ah, ben oui, parce qu'on a beaucoup, j'entends beaucoup ce discours comme quoi les filles, c'est plus pour le plaisir, les garçons, c'est plus pour la compétition. C'est encore une construction sociale des genres où le masculin, c'est ça, le féminin, c'est ça. Il y a énormément de filles qui aiment la compétition dans le sport, qui aiment, mais dans un contexte où elles se sentent en sécurité.
Ouais. Et entre filles?
Et entre filles,
bien,
absolument.
Bien, ouais.
Il y a aussi la question de l'accessibilité. On s'est rendu compte que l'accès en termes des lieux, les coûts où les activités sont, le transport qui est donné, peut constituer un frein incroyable pour la participation d'activités physiques. Mm-hmm. Donc notamment, tenir ces activités dans les écoles, ça met déjà les parents en confiance pour que la fille y aille. Et ça peut permettre aussi d'avoir déjà tout en place dans un espace où la fille se sent en sécurité. Et aussi les coûts. Parce qu'on parle aussi, nous, on travaille beaucoup avec des communautés plus marginalisées. Avoir des activités qui coûtent les yeux de la tête, ça ne favorise pas l'accessibilité aux activités sportives pour les filles.
Il n'y a pas aussi quelque chose par l'enseignement, le modèle, souvent les coachs, les entraîneurs sont des hommes. S'il y avait plus de femmes sur les terrains de basket, de soccer, est-ce que les filles seraient tentées de bouger davantage?
Je pense qu'au niveau des coachs, il y a une éducation à faire au niveau non seulement des coachs, mais aussi des professeurs d'éducation physique, où souvent la recherche a montré que les filles se sentent négligées par les coachs quand elles fonctionnent dans un espace, un espace mixte, notamment que les garçons ont toute l'attention du coach et que les filles sont ignorées ou mises de côté ou on considère d'emblée qu'elles sont moins compétentes. Donc, on leur donne moins on les pousse moins. Ça, à ce niveau, il va falloir qu'il y ait vraiment un projet aussi de revoir un peu toutes ces constructions-là au niveau des éducateurs, etc.
Oui.
Mais oui, une présence féminine, ça peut aller. Mais n'oublions pas que le sport et l'activité physique sont deux choses distinctes. Et ce qu'on aimerait, nous, et c'est vraiment notre approche, c'est une approche démocratique à l'activité physique qui est de dire, on peut faire de l'activité physique en allant faire l'épicerie, on peut faire de l'activité physique en marchant pour aller à l'école. C'est pas forcément dans un sport de compétition ou en équipe qu'on peut en faire non plus.
Oui, parce que les intérêts des filles sont parfois différents. Je pense, par exemple, à la danse. La Zumba, on sait, très, très populaire en ce moment. C'est une façon de bouger, d'avoir du plaisir en bougeant et de se maintenir en santé. Est-ce qu'il faut tenir compte des intérêts différents des filles?
Absolument. D'ailleurs, une étude en Grande-Bretagne a montré très récemment que quand on disait aux filles, voilà, il y a deux activités sportives offertes à l'école, le hockey, mettons, et le baseball. Bon, personne ne s'inscrivait.
Ouais.
Mais quand on leur disait, ah ben là, finalement, il y a du soccer aussi, là, les filles se ruaient en masse. Donc, ils se sont rendus compte que pendant plusieurs années, ils ont, entre guillemets, empêché plusieurs filles de faire du sport en offrant un choix très limité de sport. Donc, une des choses qu'on préconise, justement, c'est une diversité d'offres d'activités physiques sous différentes formes dans les écoles, déjà à la base, et dans les communautés.
Oui. Maintenant, Je m'intéresse un petit peu à l'origine de l'inactivité, de la sédentarité chez les filles, à savoir, on parle de faible estime personnelle. Est-ce que c'est la faible estime qui fait qu'on bouge moins ou parce qu'on bouge moins, on a une faible estime?
Je pense à un peu de se poser la question de qu'est-ce qui vient avant, la poule ou l'œuf, etc. Et je pense que quelque part, moi, je dirais qu'au niveau de la société, la question qu'on devrait se poser, c'est quel poids nous mettons sur les filles, sur les épaules des individus en tant que filles, de ressembler à quelque chose qui permet de faire du sport. On s'est créé déjà une image, puis si la fille ne rentre pas dans cette image, quelque part, elle ne se sent pas autorisée à pratiquer le sport. En tant que société, c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose. On a une vision, comme vous l'avez nommé plus tôt, de l'activité physique étant reliée à un poids santé, et même le poids santé peut être mis en question parce que même culturellement parlant, c'est questionnable. Au niveau même de la physiologie des individus et génétiquement, ça varie. Donc, encore, on s'imbrique dans des catégorisations, dans des cases qui enferment l'individu, puis qui l'empêchent d'aller explorer les avenues possibles d'activités physiques qui lui correspondent pleinement.
Oui.
Et oui, les filles en pâtissent.
Oui. Et aujourd'hui, évidemment, avec vous, Diarran, je voulais parler d'activités physiques, de sport, mais aussi de saines habitudes de vie. Est-ce qu'il y a des messages à mettre de l'avant pour que les filles aient davantage des habitudes de vie qui font en fait la promotion de leur santé?
Vraiment, l'approche de créer des espaces de confiance, premièrement, où les filles peuvent se retrouver entre elles, avec des modèles féminins. Quand je dis des modèles, pas forcément des femmes qui font du sport ou qui mangent santé, mais des femmes plus âgées, qui sont passées par les étapes de la puberté, qui savent ce que les filles vivent, qui peuvent échanger avec elles. Ça peut être des jeunes femmes aussi plus proches de leur âge, parce que là, ça permet de mettre sur la table tous les sujets tabous.
Oui.
La consommation de l'alcool, de la drogue, la sexualité, les problèmes de santé mentale.
Le rapport avec les garçons aussi.
Le rapport avec les garçons peut être exploré dans un espace sécurisant et sécuritaire. Et ce qui se passe, c'est que ça augmente la confiance en soi des filles. Et on s'est rendu compte dans les études que la confiance en soi et l'estime de soi est un facteur de protection contre les maladies chroniques. Et
wow.
Oui. Et contre les problèmes de santé mentale.
Mm-hmm.
Alors, je pense qu'à la base, si on travaille fort là-dessus, sur cet aspect-là, déjà, je pense qu'on a un pas d'avance sur la protection, puis une meilleure santé en général et bien-être pour les filles.
Et quelles sont les actions concrètes de la Fondation Filles d'Action en ce sens?
En fait, on a nos programmes travaillent autour, sont basés sur la recherche, donc sont basés sur les preuves scientifiques qui démontrent qu'il y a certains facteurs de protection, notamment la communication, l'esprit critique ou la pensée critique, l'estime de soi et aussi le quatrième m'échappe. Mais en tout cas, on a identifié la connectivité sociale,
mm-hmm.
la connexion. Avec la communauté, la
avec
connexion
un réseau
avec
social,
la famille, oui,
oui
mm-hmm. exactement. Et ces facteurs-là, ces quatre facteurs-là, permettent non seulement d'éviter des problèmes de santé chronique sérieux, mais aussi favorisent une santé mentale, voilà.
Oui. Avant que l'on se quitte, comment on éduque les garçons? Parce que ça peut pas se faire là, en silo, tout ça. Ça doit se faire en parallèle. Les garçons ont également besoin d'être éduqués au côté que les filles et les garçons sont égales, que bon, les filles peuvent être autant compétentes dans le sport, elles ont le droit de bouger. Est-ce que vous y pensez à ça?
Mais ce qui est frappant, c'est que, et ça c'est intéressant votre question, c'est que depuis X nombre d'années, quand les programmes ont été développés pour les jeunes, ils ont été développés avec un biais androcentrique, donc vraiment basé sur la façon dont les garçons se développaient, la façon dont les garçons jouaient. Même les sports ont été développés en fonction des besoins des hommes qui y jouaient.
Ouais.
Donc du coup, quelque part, je dirais que l'attention spéciale aux garçons a été le cas depuis les deux derniers ou les trois derniers siècles plus, et qu'il est vraiment temps de se pencher sur une approche spécifique au genre, de se baser d'abord sur les filles pour essayer de rattraper un peu ce retard ou ces problèmes, ces lacunes, et par la suite, de voir comment développer des approches spécifiques aux garçons. Mais je dirais qu'en général, l'approche générale est d'emblée spécifique aux garçons.
Oui. Et le message, peut-être un message aux mères, parce que j'ai l'impression que si la mère a un rapport sain avec elle-même, à son image personnelle, si elle est active, on ne lui demande pas d'être championne de hockey ou quoi que ce soit, j'imagine que ça doit changer la dynamique et le rapport aussi de la jeune fille là, à elle-même.
Oui, je dirais les mères peut-être, mais moi je dirais surtout la société en questionnement.
Okay.
Parce qu'on s'est rendu compte qu'on met beaucoup de poids sur les mamans, sur les mères, on met la responsabilité de la santé de leurs enfants entre leurs mains, encore le poids est sur l'individu, la responsabilité de leur propre santé sur leurs propres mains, sur leur propre corps. Et ce que je poserais comme question, c'est en tant que société, est-ce que la société ne doit pas se remettre en question par rapport à sa responsabilité? Est-ce que les produits santé, les aliments santé sont accessibles à toute la population?
Mm-hmm.
Est-ce que les personnes marginalisées ont accès à des endroits pour faire du sport? Est-ce que c'est sécuritaire dans mon quartier de marcher ou de courir le soir après le travail si je suis une maman? Tout ça, c'est des questions que la société doit se poser et de se dire que le poids de la santé et du bien-être des filles ne repose pas sur les mères et sur les femmes, encore une fois, qui ont déjà assez de luttes sociales à mener juste pour essayer de survivre. Mais dépassons cette étape, allons vers un projet de société qui dit ben, la santé, le bien-être, c'est notre problème à tous.
Très inspirant, Diarra Traoré. Je rappelle, vous êtes coordonnatrice au programme responsable du projet Santé et bien-être des filles pour la Fondation Filles d'Action. On peut également aller sur votre site pour en savoir davantage, avoir des ressources, des pistes également pour savoir un petit peu comment s'y prendre. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer.
Merci également.